Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Ici Bruxelles, les Belges parlent au français. Aujourd'hui, nous partons en exil à Londres, mener une guerre secrète à coups d'espions et d'émissions radio. Je vous propose ce soir d'écouter la voix du général Micro. C'est en tout cas ainsi que Vichy appelait le chef officiel de la résistance, un certain Charles de Gaulle, en pleine tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Comment un appel à la radio a pu pousser des gens à l'insurrection? Quels codes utilisaient les résistants et quels étaient donc ses messages personnels avant chaque bulletin de la BBC? Quel est le point commun entre romans d'espionnage et la DGSE? Mais surtout, comment la résistance s'est organisée à partir de trois fois rien, des gens de bonne volonté et beaucoup de courage? Bref, c'était une époque où la radio faisait l'histoire, alors sortez vos croix de Lorraine et vos plus beaux fusils car ce soir, nous allons prendre le maquis. Mais veuillez avant tout écouter quelques messages personnels. Papa est pompier à Perpignan. Je répète, papa est pompier à Perpignan. Artemis est seul ce soir. Je répète, Artemis est seul ce soir.
Là, mon diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je
n'ai pas... Ici, Radio Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle.
Je vais annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi.
Notre histoire commence le 11 juin 1940 à Briare, dans un vieux château français de style Louis XIII. Là se tient le Conseil suprême interallié, une réunion de dignitaires français et anglais chargés d'évoquer la suite des combats. Car la situation est grave, les Allemands sont entrés dans Paris, l'armée française est écrasée à Dunkerque, l'Italie vient de déclarer la guerre à la France, et la Wehrmacht encercle Reims. Autour de la table sont réunis le ministre Winston Churchill, Anthony Eden, le général Spears, et côté français toute la fine équipe, le président Paul Reynaud, le maréchal Pétain, le général Weygand et un certain Charles de Gaulle. Le ministre britannique Winston Churchill souhaite la poursuite des combats, mais il refuse d'engager son aviation pour défendre la France. Il préfère en effet garder ses avions, car il craint qu'Hitler envahisse l'Angleterre. Les Anglais aimeraient que l'armée française continue les combats dans les colonies et qu'une tactique de guérilla soit appliquée en métropole. Mais pour les Français, Pétain et Weygand se sont déjà décidés, ce sera un armistice avec l'Allemagne, avec les conséquences que vous connaissez. Anglais et Français ne sont donc pas vraiment sur la même longueur d'onde. Seul le général de Gaulle, soutenu par Paul Reynaud, souhaite la poursuite des combats. De Gaulle n'est alors qu'un inconnu, quelques semaines auparavant, il n'était qu'un petit colonel d'état-major, plus littéraire que militaire. À l'époque, on le connaît surtout parce qu'il avait milité pour que la France se dote d'une armée de professionnels, formée à la guerre de mouvement et constituée de divisions blindées. Personne ne l'avait franchement écouté, ni vraiment lu, le seul qui semblait l'avoir pris au sérieux, c'était Adolf Hitler. À la fin de la guerre, on a retrouvé dans les décombres du Berghof un livre de Charles de Gaulle annoté par Hitler lui-même. Quand le Führer apprit qu'un général Revêche organisait la résistance française depuis Londres, il ne fut pas très content, et quand il apprit que c'était le général de Gaulle, il devint furieux. Bref, de Gaulle est bien seul dans son camp, alors que la France signe l'armistice et que Pétain l'écarte de son gouvernement, il quitte la métropole pour rejoindre Londres le 17 juin 1940. Le lendemain, le 18, il est dans les bureaux de la BBC pour lancer son célèbre appel, un appel qui refuse la paix avec l'Allemagne et qui demande aux Français de résister. L'appel du 18 juin, bien qu'il soit entré dans la légende comme l'acte fondateur de la résistance, n'a jamais été enregistré. Il a d'ailleurs été relativement peu entendu, c'est surtout celui du 22 juin qu'on connaît aujourd'hui, puisque celui-ci a été enregistré. Le discours du général de Gaulle est minutieusement écrit, lu et relu. Un discours qu'il avait dû nuancer car les Anglais le trouvaient trop dur avec Pétain, les Britanniques, Chamberlain en tête, pensent encore que le maréchal va négocier avec l'Allemagne et faire double jeu. Neville-Chamberlain, encore une fois, semble s'être trompé. Bref, après de nombreuses relectures et un nombre incalculable de cigarettes grillées, le discours est prêt. De Gaulle s'assied devant le micro avec son texte sous les yeux. L'opérateur de la BBC règle les derniers paramètres, il s'adresse à lui. « Mon général, pourriez-vous s'il vous plaît dire quelque chose devant le micro afin que je paramètre le volume de votre voix ?» Là, De Gaulle se serait approché du micro et aurait dit « La France !» Bon, très bien mon général, vous auriez pu simplement dire 1-2 ou « test », mais c'est pas grave, la France et le monde entier vous écoutent. Vous êtes en direct dans 3, 2, 1.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre ! Dans l'honneur et dans l'indépendance.
Les discours de juin 40 sur la BBC vont bouleverser la France entière. Non pas qu'ils soient entendus par beaucoup de gens, mais parce que ce général inconnu est le premier à parler d'une guerre mondiale. Une guerre qui sera longue, difficile, et qu'il va diriger en Wi-Fi depuis Londres. Son objectif est évidemment de libérer la France, mais pour ce faire, il a besoin d'un service de renseignement efficace, et c'est là qu'entre en scène mon résistant favori, le colonel Passy. À Londres, de Gaulle rencontre un certain capitaine De Wavrin. Fraîchement revenu de la débâcle militaire de Norvège, De Wavrin, malgré son jeune âge, est fait directeur du Bureau Central de Renseignement et d'Action, le BCRA, qui deviendront les services secrets du général de Gaulle. En quelque sorte, c'est la tête de la résistance. Le capitaine De Wavrin est plus connu sous le nom de colonel Passy, et bien qu'on l'ait un peu oublié aujourd'hui, Passy était la pièce maîtresse d'un échiquier très fragile. À la tête du service de renseignement de la résistance, le BCRA, il a posé les bases de ce qui deviendra la DGSE, les services secrets de la République française. Mais au début, ce n'était pas très glorieux. Déjà, l'équipe du colonel Passy est jeune. 30 ans de moyenne, ils sont peu expérimentés, peu équipés et sans ressources financières. Et fort heureusement pour eux, les années 30 avaient été la grande décennie du roman d'espionnage. En 1937, le roman de Pierre Nord, Double crime sur la ligne Maginot, un titre prémonitoire, est adapté au cinéma. Le colonel Passy n'avait jamais caché que la lecture de tels romans l'avait inspiré pour son travail au BCRA. Et pourtant, ce contexte culturel n'a pas facilité le recrutement de volontaires pour les missions secrètes. Les premiers à suivre De Gaulle à Londres l'avaient en effet rejoint dans le but de constituer une armée afin de battre l'ennemi. Ses premiers résistants, plutôt ancrés à droite, veulent en découdre avec les Allemands et l'action clandestine qu'on leur propose ne leur semble pas très honorable. Passy note dans ses mémoires que la guerre sans uniforme ne plaisait pas à cette époque. Et quant à ceux restés en France, eh bien, ils se sont posé la même question que Lénine en 1902, que faire ? Eux aussi voulaient taper du boche, mais sans consigne claire, la résistance à Londres, comme en France, patine un peu. L'objectif du BCRA est d'initier justement un contact avec les réseaux résistants français, mais ils perdent facilement le contact avec leurs agents, ils se font trahir, et bien qu'ils arrivent à avoir des contacts par courrier, aucune ligne radio n'arrive à être ouverte début 1940. D'autant que De Gaulle ne cohabite pas facilement avec les Anglais, qui lui marchent sur les plates-bandes et ne rendent pas son travail facile. Winston Churchill avait même demandé que toutes les requêtes qui émanent de la France libre, de Charles de Gaulle quoi, devaient être traitées avec lenteur et circonspection. C'est dire l'ambiance. Bref, c'est dans cette ambiance délétère que la résistance gaulliste est née. Une équipe de bras cassés qui bricolait avec des bouts de ficelle, coincés entre le marteau anglais et l'enclume de Vichy. Ils ont tout fait pour qu'une certaine idée de la France subsiste en dépit de la collaboration, et c'est pourquoi je vous passe en face A de cette émission un disque de Ray Ventura, « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Ray Ventura est un chef d'orchestre très populaire dans les années 40. Il tourne avec son groupe, les Collégiens, mais comme il est juif, eh bien, il ne peut plus se produire en France, alors il part au Brésil avec toute une série d'artistes, et notamment Henri Salvatore. Le disque que je vais vous passer est un disque de circonstance, c'est l'histoire du suicide le plus comique de la chanson française. Car oui, c'est possible, une marquise partie en vacances téléphone à la maison pour savoir si tout va bien, et visiblement, tout le monde veut lui cacher la vérité en répétant cette phrase « Tout va très bien, Madame la Marquise ». En réalité, rien ne va bien du tout. Le marquis, son mari, est ruiné et s'est suicidé, or, c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le feu soufflant sur l'incendie se propagea sur l'écurie et c'est ainsi qu'en un instant, on vit périr la jument de la marquise. Bref, je vous laisse sur cette chanson populaire car au final, est-ce que cette pauvre marquise à qui l'on cache la vérité, ce ne serait pas la France de ces années-là ? Ray Ventura, tout va très bien, Madame la Marquise.
Allô, 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 James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour?
Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident. Une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit?
Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument.
Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
faut attendre la fin 1940 pour que le très catholique Honoré d'Estienne d'Orve réussisse la première grande mission d'envergure du BCRA, ouvrir un canal de communication entre la France occupée et Londres. D'Estienne d'Orve, nom de code Châteauvieux, est un proche de l'Action française. Chez lui, vous ne trouverez pas le drapeau tricolore français, mais un sobre drapeau blanc. Non pas que cet homme soit particulièrement pacifiste, détrompez-vous, le drapeau blanc, en France, c'est le drapeau des royalistes, les ennemis de la République, ceux qui souhaitent une restauration de la monarchie. Mais vous savez, il n'est pas le seul. Un certain Philippe de Haute-Cloque, dit le général Leclerc, avait le même drapeau blanc dans son bureau. Officiellement, l'Action française était un soutien vigoureux de Vichy, mais les royalistes sont très divisés sur la question. Si Charles Maurras apporte sa fidélité au maréchal Pétain, de nombreux militants royalistes décident, dès 1940, de rejoindre Londres et la Résistance. De Gaulle était lui-même un fervent lecteur de l'Action française, bien qu'il se soit éloigné de Charles Maurras suite aux accords de Munich. Il se dit lui-même monarchiste de regret, et la 5ème République qu'il va lui-même fonder, eh ben, c'est quand même fort monarchiste aussi. C'est d'ailleurs cet engagement politique, très ancré à droite, qui empêchera de nombreux résistants, surtout socialistes, à rejoindre le général de Gaulle au début de la guerre. Certains pensent même que le général souhaite renverser la République. Mais je vous rassure, pour l'instant, son objectif, c'est surtout d'ouvrir un canal radio avec la France occupée. Le 21 décembre 1940, donc, Honoré d'Estienne d'Orve, alias Châteauvieux, quitte Londres avec Alfred Gassler, un opérateur radio alsacien. Ils montent à bord d'un bateau pêcheur et débarquent tous les deux à Plogoff, en Bretagne, munis d'un émetteur radio caché dans une valise et d'une enveloppe de 50 000 francs. Ils rejoignent Nantes et le jour de Noël, une liaison entre Londres et la Bretagne est établie. C'est le premier canal radio entre la France occupée et les forces françaises libres. Châteauvieux en profite pour fonder le tout premier réseau résistant, le réseau Nemrod, qui sert principalement à recueillir des renseignements. Une fois l'émetteur radio installé à Nantes, Châteauvieux se rend ensuite à Paris pour récolter les rapports de la résistance locale. Malheureusement, Gassler, l'opérateur à Nantes, n'est pas très fiable. Il est bavard, surtout quand il a bu, et les messages qu'il envoie ne sont pas toujours cohérents. Les services de renseignement britanniques reçoivent une mise en garde contre lui-même, et via les émissions publiques de la BBC, demandent à Châteauvieux de rentrer illico presto à Londres. Une source sûre en Suisse indique qu'il collaborerait avec les Allemands, et cette source dit vrai, Gassler travaille en réalité pour le contre-espionnage allemand, mais ça, on n'apprend qu'en juin 1941, après plusieurs mois de transmissions et de fausses informations. Et c'est l'un des désavantages de la radio. Si on peut communiquer à distance, on ne sait jamais avec qui on communique. À l'époque, il n'y avait pas de vue sous le message une fois qu'il était lu. On ne pouvait donc jamais vraiment savoir si notre message était arrivé à bon port. Le seul moyen de s'assurer de la bonne réception du message, c'était d'en demander un accusé de réception ou d'attendre la réponse. Sans même savoir si la réponse que vous recevrez sera la bonne, l'ennemi pouvait très bien vous envoyer une fausse réponse qui vous enverrait sur une fausse piste pour vous faire perdre du temps ou pire, pour vous piéger. C'est d'ailleurs ce que fit Gassler. Il dénonce Châteauvieux et ses camarades qui sont fusillés en août 1940. Gassler, lui, ne sera jamais retrouvé. On perd sa trace après la guerre et il est fort à parier qu'il a terminé sa vie, bien après le conflit, sous une fausse identité. Première mission, premier gros échec de la résistance donc, mais le colonel Passy en tire les leçons et l'émetteur radio de Nantes sera le premier d'une longue série. Merci à toi, Honoré, tu as bien mérité ton petit hommage dans le film La 7ème Compagnie.
Und ich mich nicht konzentrieren kann, lasse ich hier schießen.
C'est pas moi. Moi, rien dit. C'est le Châteauvieux.
Jawohl.
Vous l'avez compris, la radio participe activement à l'effort de guerre, que ce soit par la propagande pour le grand public, mais aussi pour les armées. Elle permet la communication entre différents échelons et favorise le partage des renseignements. C'est le moyen de communication privilégié pour la résistance. Si la radio est plus pratique que le courrier, elle comporte cependant plusieurs risques. Déjà, la goniométrie, la détection d'émissions par triangulation, la rend dangereuse. Mais le plus gros problème que pose la radio, c'est son poids. Si vous voulez échanger un message à distance entre deux villes européennes, vous devez installer deux postes radio, un émetteur et un récepteur, lesquels chaque poste devant être géré par un opérateur. Un opérateur qui doit être capable de monter, démonter et réparer son émetteur, c'est donc un travail technique, risqué, difficile, sans oublier qu'il doit connaître son morse sur le bout des doigts. En effet, plus un opérateur est rapide, plus il est efficace. En moyenne, un bon opérateur pouvait envoyer 100 lettres par minute, mais avant cela, il devait crypter son message pour le rendre illisible par l'ennemi. C'est pourquoi il est nécessaire de communiquer avec un code. La Seconde Guerre mondiale sera d'ailleurs la grande guerre de la cryptographie. Puisque tout passe par des ondes, il faut donc crypter chaque message, apprendre et comprendre le code, et si possible, le garder secret. Mais comment ça fonctionne ? La résistance française utilise le code PLEFER, un code utilisé par les Anglais depuis la Première Guerre mondiale. C'est une méthode de chiffrement assez simple puisqu'il suffit de placer les 25 lettres de l'alphabet dans un ordre aléatoire sur un carré de 5 sur 5, le W étant ignoré car presque inutile. Ce carré, c'est votre code, et il suffit de remplacer les lettres de votre message par celles au-dessus ou à côté dans le carré, au choix et selon la règle. Voilà, vous pouvez coder votre message. On sait aujourd'hui que les résistants utilisaient le petit Larousse illustré pour placer les lettres dans le carré de 5. Il suffisait alors que le récepteur du message ait une édition du dictionnaire et qu'il soit informé du mot-clé pour déchiffrer le message. Crypter un message de 100 lettres prend 10 à 15 minutes, c'est dire le travail ingrat et harassant. Travail ingrat mais nécessaire puisque la bonne communication permettra la victoire. Le code PLEFER est très efficace mais il peut facilement être craqué. Pour ça, il suffit d'avoir un large échantillon de messages codés, de retrouver les lettres les plus fréquentes et là, vous arriverez à décoder le message. Faire ça de tête prend du temps, mais à l'époque, les Allemands avaient des ordinateurs capables de le faire assez rapidement. Les agents de la résistance imprimaient donc le code PLEFER sur un mouchoir de soie qu'ils brûlaient une fois le message codé. Plus tard, courant 1943, les Alliés utiliseront le One-Time Pad, une méthode beaucoup plus complexe de chiffrement, fonctionnant avec des microfilms qui contenaient des codes de 1000 lettres, ce qui les rendait mathématiquement indéchiffrables. Comme vous l'avez entendu, les émissions de la BBC commençaient toujours par 4 notes, 3 courtes, 1 longue, ce qui signifie en morse la lettre V. V comme les deux doigts de Churchill en l'air, mais surtout V pour victoire, Freiheit, victory. Ce fameux ta-ta-ta-ta, c'est aussi le début de la cinquième de Beethoven, un petit fuck radiophonique aux nazis. C'est gratuit et c'est classe. Vous l'avez compris, la résistance gaulliste est inséparable de la radio et la cryptographie. Tout est secret, tout est code. D'ailleurs, chaque résistant avait son pseudo, parfois même plusieurs, surtout pour éviter les représailles sur leur famille, qui était restée au pays. Mais c'était aussi un moyen de s'engager dans une identité nouvelle. Certains résistants vont même incorporer leur pseudo dans leur état civil après-guerre. Les chefs du BCRA, par exemple, ont tous pour nom de code une station de métro. André de Wavrin, on l'a vu, est Passy. Raymond Lagier est Bienvenu. Maurice Duclos est Saint-Jacques. D'autres résistants prendront d'autres pseudonymes qui deviendront par la suite aussi des stations de métro. Colonel Fabien, Jacques Bonsergent, Charles Michels. La liste est longue, le métro parisien, c'est un petit festival de la résistance. Mais le renseignement, c'est bien, maintenant, il faut agir. Le 24 juillet 1940, le colonel Passy propose à De Gaulle d'envoyer en France des agents pour étudier les possibilités d'un débarquement. Passy souhaite lancer des campagnes de sabotage à partir des anciennes organisations politiques ou sportives pour créer des foyers de résistance. Mais De Gaulle reste prudent, il demande à Passy de s'en tenir strictement à la collecte de renseignements et non à l'action. Le retour en France viendra à point qui sait attendre. Nouvelle frustration pour les recrues du BCRA, il faut cependant attendre 1941 pour que la résistance s'organise réellement et que Londres en devienne l'état-major. Il n'empêche, l'idée d'un débarquement libérateur de la France commence à faire son chemin. Pour ce faire, il va falloir redoubler d'efforts, organiser des sabotages, des assassinats, de la désobéissance civile, bref, il faut préparer les Français à la bataille suprême, celle de la libération de la France qui se fera 4 ans plus tard. Mais pour ça, et ce sera d'ailleurs la phase B de ce soir, il faut prendre le maquis, s'appuyer sur ces groupes organisés de résistants français, alimentés en argent et en armes par Londres, ceux qui justement ont pris le maquis.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète. Sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont France du maquis, combattant pour la France.
Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage.
Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.
Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis.
Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les effectifs, c'est l'armée de la France.
Contre nazi, des miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades.
Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.
France, le 1er juin 1944, tu allumes ta radio après 4 ans d'occupation nazie, tu cherches la fréquence de la BBC, les 12h30, et tu entends...
Ici Lens. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Les dés sont sur le tapis, il fait chaud à Suez, la flèche ne percera pas, ne faites pas de plaisanteries, le sapin reste toujours vert, le coq dresse toujours sa crête, etc. Tous ces messages absurdes, tu les as entendus sur les ondes de la BBC, sans jamais vraiment savoir ce qu'ils signifiaient. En revanche, les premiers vers du poème de Verlaine, ça, tu sais ce que ça signifie. Tu avais entendu de la bouche d'un maquisard que, le jour où la radio prononcerait ces mots, la libération serait proche. Les longs sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Cela signifie, le débarquement est imminent. De Gaulle, appuyé par de vastes moyens d'attaque, s'en va avec les Anglais et les Américains déferler sur les rivages de Normandie pour bouter les Allemands hors de France. Ces messages personnels, surtout apparus après 1942, servaient à informer la résistance, une cible à attaquer, un sabotage à réaliser ou simplement une information à faire circuler. À chaque fois que j'entends cet enregistrement de juin 44, je suis pris, je vous avoue, d'une certaine émotion, car quelle devait être la joie de ces gens quand ils ont entendu que les secours allaient arriver, après 4 ans d'occupation, après 4 ans de marasme, cette joie qui fut encore une fois diffusée par la radio. Et ce jour tant attendu, c'est le 6 juin, alors que la journée s'annonce banale, tu as encore une fois allumé ta radio en direction de l'Angleterre, et tu as entendu la voix de ce général, qui 4 ans plus tôt, t'avait demandé de ne pas déposer les armes, de ne pas t'avouer vaincu, et fort heureusement, tu l'avais écouté.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'il soit, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps déjà qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule de Stalingrad à Tarnopol, des bords du Nil à Bizerte, de Tunis à Rome. Il a pris maintenant l'habitude de la défaite. Cette bataille, la France va l'amener avec fureur. Elle va l'amener en bon ordre. C'est ainsi que nous avons, depuis 1500 ans, gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.
La suite, vous la connaissez tous, la France est libérée, De Gaulle entre victorieux dans Paris et prononce son célèbre discours sur le ton caverneux qu'on lui connaît. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. De la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Fin de citation. Mais la joie de la libération laisse très vite face à l'amertume de l'épuration. Une épuration qui touchera même indirectement De Gaulle et le colonel Passy, puisque le 2 mai 1946, trois jours avant le référendum pour la 4ème République, Passy, fondateur et directeur du BCRA, est condamné à 120 jours d'arrêt dans une forteresse militaire et une exclusion définitive de l'armée. Condamné d'abord dans le plus grand secret, on annonce sa condamnation le 8 mai, soit 4 jours après le référendum, histoire de ne pas gêner la naissance de cette 4ème République et éviter un scandale politique. Mais que pouvait-on reprocher à Passy, ce résistant de la première heure ? Principalement, il aurait dissimulé 77 millions de francs dans des dépôts clandestins et se serait livré à un trafic d'or et de devises. Passy a démenti l'affaire jusqu'à sa mort, accusant la France d'alimenter une légende noire à propos des résistants gaullistes, ce qui, je pense, est plutôt vrai. De Gaulle, dans ses mémoires, dit même qu'on a traité Passy de manière infâme. La guerre est finie depuis un an et déjà les dissensions dans le camp de la résistance se font voir. De Gaulle avait quitté le pouvoir, pensant qu'on le rappellerait. Il s'est trompé et la France se reconstruit autour des députés qui vont fonder cette 4ème République un peu bâtarde. La condamnation de Passy fut donc la condamnation d'une certaine forme de résistance, celle du général De Gaulle qui, qu'on le veuille ou non, ne fit jamais vraiment l'unanimité parmi les contemporains de la guerre. Les communistes, par exemple, lui reprochaient d'avoir fait alliance avec les Cagoulards, cette ligue d'extrême droite, antiparlementaire et violente. Et ce n'est pas tout à fait faux puisque, comme on l'a vu, de nombreux résistants venaient justement de la droite, voire de l'extrême droite. Mais la droite n'épargne pas non plus De Gaulle, qui lui reproche de s'être allié avec les communistes. Bref, c'est un peu le bazar, et vous l'avez compris, en 1946, le compromis gaulliste n'existe pas. Ce compromis n'arrivera qu'avec la 5ème République en 1958 seulement. Personne, à l'époque, ne pouvait défendre De Gaulle, ni Passy, ni tous les résistants monarchistes ou simplement de droite qui s'étaient engagés. On entre alors dans une période trouble pour les gaullistes, qu'on appelle la traversée du désert. 12 années où la France fut privée de son général, mais aussi de ses héros. Voilà comment se termine la folle épopée de notre général Micro et de son service de renseignement, le BCRA. J'aimerais terminer cette émission en vous lisant le poème de Louis Aragon, La Rose et le Reseda, écrit en 1943 à la gloire de la Résistance justement. Aragon y parle de ceux qui croyaient au ciel, de ceux qui n'y croyaient pas, en référence à tous ces résistants, qu'ils soient chrétiens ou juifs, athées ou agnostiques, socialistes ou libéraux, monarchistes ou républicains. Celui qui croyait au ciel, c'était Chateauvieux, Honoré d'Estienne d'Orve, à qui j'aimerais ce soir dédier ce poème. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lesquels montaient à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra, verra. celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur d'un commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Merci de votre écoute, je vous laisse pour ce soir avec un autre disque de Ray Ventura, la reprise d'une chanson irlandaise, typique de cette drôle de guerre. Composée comme une parodie de marche militaire allemande, elle nous enjoint à aller pendre notre linge sur la ligne Siegfried, et Dieu seul sait si on a envie de pendre notre linge sur cette ligne. Un grand merci de votre fidélité, et n'oubliez surtout pas cette devise de la résistance, obéir c'est trahir, désobéir c'est servir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et vive la France.
Ma petite amie chantait ses terres plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent leur refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc.
Les vieux mouchoirs et les chemises à papa,
en famille on lavera tout ça.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried,
si on la trouve encore là.
On the Siegfried line, have you any dirty washing, Mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Weather, the weather may be wet or fine.